podcast.com. Essaye ça.
Bonjour Marie.
Allô Kevin.
Salut Pierre.
Comment ça va?
Bien et vous?
Très bien.
Bien aussi.
Très, très content de faire partie de ce 9e épisode de Génétique, votre podcast sur les jeans québécois. Je suis vraiment content d'être là avec vous.
Hey, 9e déjà.
Ça va vite.
Ça l'avance vite. Et pour ce 9e épisode, nous avons la chance. Encore une fois, on est chanceux dans Génétique. On a toujours des très bons produits. Et cette semaine, on a la chance de discuter d'un produit de la distillerie Métis.
Oui, on va déguster le gin Mugo.
Yes. Où se situe-t-il?
Où
se situe-t-il?
La distillerie, elle prend place à Mont-Joli, donc dans le Bas-Saint-Laurent, passé Rimouski. Vous en allez vers Percé, vous allez arriver à Mont-Joli. Donc voilà, dans le rond-point, là, on prend un bout du rond-point puis on est rendu à la distillerie.
On a eu la chance de s'entretenir avec David de Soucy de la distillerie, en fait, le distilleur là-bas, qui a été très généreux de son temps pour parler de ce super gin et de cette belle distillerie, belle entreprise. Là, on a une bouteille entre les mains qui va nous permettre de faire cette dégustation-là. Pierre?
Oui? Description de la bouteille.
S'il vous plaît.
Ben, c'est une bouteille conventionnelle, premièrement. Tu sais, c'est une bouteille de format de 750 ml. Tu sais, elle n'est pas rectangulaire, comme mettons d'autres bouteilles qu'on a déjà fait. C'est une bouteille qui est conventionnelle.
Ronde.
Ronde, effectivement, avec une étiquette blanche et des lignes vertes au travers. Donc, Gin Mugo Dry Gin, en collaboration avec les Jardins de Métis, 750 ml, 43% d'alcool, et on disait qu'elle se détaillait à 46,75 en SAQ.
Oui, et il y a une image sur l'étiquette.
Oui, ben c'est ça. C'est quoi ça?
Dans le fond, c'est la branche de Mugo.
C'est la branche de Mugo. Okay.
Qu'on appelle aussi le pain montagnard.
Voilà.
Oh. Pain P-I-N et non P-A-I-N.
Donc, pour le texte qui est en arrière de la bouteille, donc, cueilli à la main au Jardin de Métis, le pain montagnard est mis en vedette dans leur cuisine. Cet ingrédient unique, accompagné du poivre des dunes ainsi qu'une sélection d'aromates, confère au gin Mugo un équilibre entre les notes résineuses, les arômes légèrement épicés et une fraîcheur remarquable. L'assemblage final offre une versatilité hors pair. Du gin tonic jusqu'aux essais les plus créatifs, à vous d'explorer l'univers des cocktails.
Super. Ça me semble très inspirant.
Ils ont gagné des médailles, Pierre.
Oui, il y a deux étiquettes. Donc, la première, qui est la Canadian Artisan Spirit Competition. Ils ont eu la médaille d'or. Et l'autre, ils ont eu le World Wine and Spirit Competition, double médaille d'or à New York.
Quand même, deux fois. C'est pas
double gold.
Double gold. Super! Fait que le Mugo de Dieter Métis, c'est ce qui nous attend dans ce 9e épisode. Alors, avant de déguster tout ça, est-ce que ça vous tente qu'on ait jasé avec David?
Oui!
Oui, puis je peux vous dire que si vous avez la chance d'aller visiter la distillerie, les installations sont vraiment magnifiques à aller visiter. C'est super beau quand tu vas pour aller chercher tes produits, comme dans plusieurs distilleries. En fait, tu as toujours accès par une vitre aux installations à l'intérieur, puis les installations, c'est vraiment super beau. Donc, je vous conseille vraiment de vous rendre sur place et d'aller visiter l'endroit comme vous le pouvez et comme ils peuvent vous le faire visiter.
Super, merci beaucoup Marie. Alors, de notre côté, cher Dynamie, nous allons aller entendre David qui va nous parler de la distillerie Métis et du Mugo maintenant.
Entrevue, place aux artistes.
Et on est maintenant avec David Soucy de la distillerie Métis. Salut David.
Salut.
Comment ça va?
Nous, ça va toujours super bien.
Excellent. Un gros merci à toi et la distillerie Métis d'avoir accepté de faire partie de Génétique. On est vraiment content de vous avoir pour cet épisode.
Bonheur partagé.
Excellent. Hey, sans plus tarder, distillerie Métis, comment ça a commencé cette histoire-là? Où vous êtes? C'est qui? Pourquoi? Quand? On veut tout savoir.
Dans le fond, on est deux cofondateurs, copropriétaires de la distillerie, Yann Lévesque et moi, David Soucy. En 2016 environ, Yann et moi avons débuté à produire de la bière artisanale à la maison pour le plaisir de le faire, puis voir un peu qu'est-ce qui allait en sortir de tout ça. Et finalement, ce que ça nous a appris beaucoup de choses, c'est surtout d'être capable de savoir qu'on est capable de travailler ensemble. C'est une chose qui est très importante dans la vie, surtout en partenariat dans une entreprise. Au fil du temps, on s'est mis à faire certaines expériences. On va appeler ça comme ça, avec toute la partie distillation. Puis on a sorti, dans le fond, un de nos produits qu'on a déjà sur le marché. C'est à partir de mélasse et de sucre de canne biologique. Lui, dans le fond, le Métis, c'est la recette qui nous a fait un peu démarrer en entreprise. Une fois qu'on est arrivé à ce résultat-là, on s'est dit « Hey, on y va, on a quelque chose de vraiment bien entre les mains, on fonce. » Fait que de 2016 jusqu'en 2018 environ, c'est toute la partie préparation, plan d'affaires, montage financier, visite un peu partout, dans le fond, dans les provinces canadiennes, aux États-Unis, pour voir un peu, là, prendre le pouls de l'industrie, le côté touristique aussi attaché à ça. Nous, à Distillerie Métis, pour nous, c'est important. Le positionnement qu'on a aujourd'hui avec nos bâtiments, on va en parler un petit peu plus tard, tantôt. Mais toute cette partie-là, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, construction du bâtiment flambant neuf dans le Crête. 2018 à 2019, dans les faits, pour ouverture des portes le 20 juillet 2019. On est très contents. Dans le fond, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans cet été qu'on produit le gin Mugo, qu'on va discuter tantôt. Puis qu'on a ouvert nos portes, puis on peut accueillir nos gens. Le bâtiment est situé au 1034 avenue de la Gaspésie à Mont-Joli. Dans le fond, lorsque vous quittez l'autoroute 20, vous faites 100 mètres et vous êtes rendu à la distillerie. Donc, c'est comme l'arrêt facile qui devient avec les années une espèce de routine le fun lorsque vous venez faire votre tour, soit en hiver, soit en été. Venir nous voir, passer, on est toujours ouvert, ou presque. Donc ça permet d'avoir justement une belle place. Vous voyez à l'arrière de moi le magnifique alambic de 1000 litres de type pot style que l'on a, qui nous permet de faire du gin, qui nous permet aussi de faire du rhum, en fait, dans les faits, avec ce qu'on a. On pourra en reparler un petit peu plus tantôt aussi toute la partie rhum, mais vous avez vraiment cette belle vue là sur fond noir à partir de la boutique de dégustation. Vous pouvez voir de l'extérieur aussi ça, puis ça permet d'avoir vraiment une belle expérience client, nos gens qui travaillent pour nous, quand c'est pas nous qui est en arrière du comptoir, ça nous permet justement de bien vous immiscer dans notre univers, puis de voir après ça qu'il y a quel genre de recette qui est intéressante à faire avec vos produits, est-ce qu'il y a des trucs particuliers, nouveautés de l'année, parce qu'il s'en en vient des nouveautés. On a préparé des belles choses pour l'été, donc on va être super contents encore une fois de partager ça avec vous.
Excellent. Puis d'où vient le nom Distillerie Métis?
Métis, dans le fond, chez nous, c'est deux choses. Un, c'est le nom de la région. La région de la Métis, c'est notre MRC s'appelle la MRC de la Métis, et c'est aussi le nom de la rivière qui serpente justement entre nos deux villages natals, Yann et moi. Yann est originaire de Sainte-Jeanne-d'Arc, moi je suis originaire de Presse, et les deux villages justement sont mitoyens justement avec cette rivière-là. Fait qu'on est c'est un espèce de grand sentiment d'appartenance qu'on a. C'est une belle rivière à saumon. Où est-ce qu'il y a de la pêche récréative pendant l'été. Ça il a produit de l'hydroélectricité pendant maintes années sur cette rivière-là. Puis la belle embouchure de la rivière Métis, on va se diriger vers notre gin. Dans le fond, l'embouchure va directement près de la Villa Estevan, la Villa Refford, au jardin de Métis, où on fait, qui est l'emblème, dans le fond, le pain Mugo qui est cueilli sur place pour notre gin. C'est directement relié avec ça. Donc, le nom de notre entreprise, c'est un beau côté régional, c'est une belle fierté régionale, c'est la source de notre approvisionnement d'eau que l'on utilise ici à la distillerie. Puis c'est un beau clin d'œil à notre région qu'on adore.
Wow, c'est un nom qui en dit long finalement pour si peu de lettres.
Ouais.
Excellent. Puis aujourd'hui, dans le fond, le produit qu'on va déguster à Génétique, c'est le gin Mugo.
Ouais, le gin Mugo. Je m'en penche un peu.
Yes, oui. Une belle bouteille.
Je vais vous présenter gin Mugo, qui est une collaboration avec les jardins de Métis. Dans le fond, on cueille majoritairement notre pain montagnard, pain Mugo, qui n'est pas un pain qui est originaire du Québec, il faut se le dire. C'est un pain qui est d'origine italienne, qui a été reboisé au jardin de Métis dans les années 60 à des fins ornementales. C'est un arbre qui tolère très bien la taille, qui fait un gros ratio de bourgeonnement suite à sa taille, ce qui fait que d'année en année, sur des cycles, on est en mesure de pouvoir continuer notre approvisionnement continu de cet arbuste-là. Puis en même temps, ben, il sert au jardin. On le voit directement en avant de la Villa Esteban. Ben, toutes les petites boules, dans le fond, les petites boules qui sont présentes en avant des jardins, c'est du pain mugo. Nous, au jardin, on cueille, il y a une partie de ce pain-là qui est utilisée pour faire le sirop de pain mugo. Puis nous, on a aussi certains pains qui sont ailleurs dans les jardins de Métis, qui nous permettent justement d'avoir un approvisionnement un petit peu plus accru que juste ce qui est présent en avant de la Villa. Mais c'est tout ce beau côté local-là. Nous, on est très contents. C'est un beau partenariat qu'on a avec un champion dans l'industrie autant alimentaire. Dans le fond, au Jardin de Métis, c'est en mesure d'avoir une cuisine fine, de manger, d'avoir une belle expérience sur place. Les gens qui y travaillent, tous les jardiniers font un travail vraiment d'exemplaire pour rendre ça super beau tout le long de la saison estivale. Il y a des beaux festivals. Il y a tout le Festival des Jardins aussi. Donc, lorsque vous venez, puis en passant, de la distillerie, c'est environ 4 minutes en auto. Donc, c'est pas, c'est même pas un détour si vous faites un tour vers la Gaspésie par la rive nord. Donc, 4 minutes en auto à partir de la distillerie, vous êtes rendu au Jardin de Métis, vous avez l'expérience complète. Puis, lorsque vous passez chez nous, ben, ça vous permet un peu de voir puis de sentir un peu ce beau côté-là local associé au pain montagnard.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré, en fait, là, à choisir cette plante-là, le pain mugo, pour un gin, finalement? C'est d'où ça vient, cette décision-là?
Pain montagnard, dans le fond, initialement, on s'est dit, lorsqu'on a parlé tantôt qu'on voulait produire du rhum, c'était notre emphase initiale, puis on a dit, ben, on va aussi produire du gin. Puis dans le contexte de production de gin, on s'est dit, tant qu'à produire un gin, on va le produire local. Tant qu'à produire local, on va dire quels sont les ingrédients, qui serait le mieux placé dans notre région pour l'utilisation des végétaux en cuisine. Et tout de suite, le pop qui nous est venu, c'est les Jardins de Métis avec leur cuisine, où est-ce qu'ils s'efforcent énormément à prendre le matériel qui est pris sur place. Dans le fond, qui est cueilli sur place, donc les salades vont avoir des fleurs et etc. dans le fond, dans tout ce qu'ils cuisinent. Ils s'efforcent vraiment, c'est une conviction forte et bien présente. Donc, on les a approchés pour voir si le partenariat les intéressait, puis de voir quels seraient les ingrédients qui pourraient être intéressants à accueillir au jardin pour pouvoir intégrer dans un gin. Donc, on a eu une liste avec Pierre-Olivier Ferry, dans le fond, qui est l'ancien chef cuisinier des Jardins de Métis. Du départ, on a travaillé avec lui. Puis finalement, c'est le pain montagnard, le pain mugo, qui était utilisé déjà au jardin pour faire le sirop de pain. Le sirop de pain est venu bien avant le gin mugo, qui était déjà existant au jardin. C'est quelque chose qui était utilisé pour mettre exemple sur la crème glacée. Ils faisaient aussi à partir du pain mugo des sucettes glacées, des popsicles pour les enfants ou même pour les grands-enfants comme moi. Tu peux aller au Jardin de Métis puis prendre ta sucette glacée au pain mugo puis pouvoir continuer ta balade à l'intérieur des jardins. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà dans le temps. Puis, le pain montagnard, un des beaux avantages qu'il y a, c'est toute sa fraîcheur. Il donne une fraîcheur. C'est un pain qui est ni astringent ni amer. Donc, il va donner vraiment une belle souplesse, un beau côté résineux. Il va laisser de la place à tous nos autres ingrédients, justement, aussi à l'intérieur de notre gin.
OK. Puis, bon, fait que le pain montagnard, c'est vraiment votre aromate fort. Qu'est-ce que vous avez utilisé aussi comme aromate pour faire le gin mugo?
Au total, dans le fond, on a 9 ingrédients au total. Donc, baie de genévrier, coriandre, racines d'angélique. J'en ai 2 sortes. Dans le fond, j'ai une sorte qui vient de la Gaspésie, puis j'ai une sorte qui est européenne. J'ai de la racine d'iris. J'ai du poivre des dunes ou de l'onde crispée. Dans le fond, qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup plus présent dans les gins. Par le passé, c'était moins utilisé. On utilise le poivre rose qui est utilisé en cuisine, qui est un poivre à dessert, qui donne un beau côté, un petit côté piquant en milieu de bouche à l'intérieur du gin. Ça donne vraiment un bel effet intéressant sur le plan gustatif. Et on utilise aussi de l'argousier. Dans le fond, encore une fois, c'est un ingrédient qui était peu utilisé lorsqu'on a fait la création du gin mugo. Ça donne un beau côté, une espèce d'élan de fraîcheur aussi à l'intérieur de notre gin. Puis nous, on est fiers, on est contents. On fait, pour nous, c'est un approvisionnement qui est court. Dans le fond, pour notre argousier, on essaie pour la majorité de nos ingrédients, lorsque c'est possible, de faire en circuit court. Par exemple, pour l'argousier, on va le prendre à Amqui, puis on va le prendre aussi à Bécomo, dans le fond, sur la Côte-Nord. Puis aussi drôle que ça puisse paraître de chez nous, ben nous, on fait une demi-heure de route, on prend le bateau, on va faire une demi-heure de route, puis on est rendu. Fait que ça reste quand même un circuit court pour cet approvisionnement-là. Le poivre des dunes, bien évidemment, il est cueilli dans la péninsule gaspésienne. Donc, on est très fiers de toute cette belle partie-là. Puis, je pense que ça se complète bien, justement, à l'intérieur de la recette. Puis, les gens actuellement apprécient le gin Mugo autant que nous. Donc, on est vraiment très contents.
Très, très hâte de goûter à ça. Ça me semble vraiment, vraiment délicieux. Vous qualifieriez le gin de boréal, d'herbacé? Il semble avoir beaucoup, beaucoup d'herbes qui viennent, en fait, de chez nous. Des plantes qui viennent de chez nous. Comment tu le décrirais, le gin Mugo, à la dégustation?
Oui, dans le fond, lorsque tu vas faire une dégustation, tu vas trouver un petit côté épicé en milieu de bouche. On en a parlé avec les poivres qui proviennent du poivre des dunes et du poivre rose. Tu vas avoir une belle finale résineuse qui provient baie de Genévrier et évidemment du pain montagnard. C'est toujours frais. Dans le fond, lorsque tu vas goûter, puis c'est quelque chose qui est très persistant. Cette espèce d'effet de fraîcheur-là va rester persistante en bouche pendant de longues minutes. Les gens le voient à la dégustation, puis je leur fais mention souvent lorsqu'ils viennent à la distillerie. Ils prennent leur dégustation, je vais dire, vous allez voir dans quelques minutes, lorsque vous allez retourner dans votre voiture, vous allez encore sentir ce bel élan de fraîcheur-là que vous avez à l'intérieur du gin Mugo. Quelque chose qui, comme je disais, comme le pain n'est ni astringent ni amer, ça donne juste une invitation à y retourner, on va dire ça comme ça. C'est comme une belle place.
un goût de revenez-y, c'est ça qu'on dit.
C'est ça.
Excellent. Puis bon, fait que oui, ça c'est le gin Mugo quand on le boit comme ça, on le boit sur glace ou brut. T'aurais-tu des cocktails à nous suggérer, un tonic ou en fait un petit cocktail un peu plus funky qu'on pourrait essayer à goûter puis pour faire aller un peu nos esprits, nos esprits créatifs?
Absolument. Dans le fond, nous, sur place, on s'assure justement de pouvoir faire les beaux accords. Lorsque vous venez à la distillerie, on s'assure de bien faire l'accord avec le gin, puis vous orienter justement avec ça, autant avec des recettes. Ou, exemple, nous, étant donné que c'est très touristique, on tient justement quelques sortes de toniques sur place. Par exemple, en ce moment, on utilise le 1642, dans le fond, le tonique qui est beaucoup plus accessible un petit peu partout. Justement, c'est le fun, c'est un tonique qui est vraiment intéressant en bouche, qui va laisser de la place au gin Mugo. Pour nous, c'est important de ne pas venir étouffer, parce que comme c'est un gin qui est tout en douceur, qui prend sa place, mais sans être trop un gros coup de poing, ben justement, c'est important de bien l'accompagner avec un tonique qui va y laisser de la place. Un autre des toniques qu'on aime beaucoup nous prendre, qui fait différent, c'est le tonique littoral. Le littoral au pamplemousse blanc. Il va donner, je trouve, personnellement, un beau côté particulier. Le côté résineux puis des agrumes, ça va vous permettre, tous ceux qui adorent tout le côté agrumes, si on le voit, il y a une belle mode aussi sur les gins agrumés. Lorsque pour vous, le gin Mugo, c'est vraiment quelque chose, c'est un must pour vous, essayez justement de le prendre avec, mais que vous voulez aller vers un petit côté agrumé, essayez-le avec le tonique littoral. Pour nous autres, c'est un beau petit coup de cœur, ça donne un bel élan de fraîcheur l'été. Une glace, un peu de tonique littoral avec un bon demi-go dans un verre, vous allez voir, c'est le parti assuré. Et, tu me mentionnais tantôt, un côté cocktail, on a le petit côté spécial. Je me repenche encore une fois, dans le fond, on a la petite particularité, le sirop de pain montagnard, dans le fond, pain Mugo, qui est fait par les Jardins de Métis. On l'intègre justement dans le Mugo Sour. Mugo Sour, c'est le nouveau chef cuisinier des Jardins de Métis depuis maintenant un an et demi. Frédéric Boucher, qui en passant est originaire du même village que moi dans mon enfance, à quelques maisons près, dans les faits. Et chef cuisinier de renommée, a travaillé beaucoup en Europe, a été maître, il a démarré justement des buvettes en Europe pour tout le côté mixologie et vin. Puis lors de son retour ici au jardin, mais il s'est dit, on va faire un sour avec le sirop de pain Mugo et avec le gin. Donc, on intègre de façon toute simple 2 onces de gin Mugo, environ 3/4 once à 1 once de sirop de pain. Puis on met 1/2 once à 1 once de jus de citron au shaker. On peut arriver avec un émulsifiant vegan si vous avez un intérêt dedans, ou sinon vous pouvez utiliser le blanc d'œuf pour vous donner justement l'espèce de bel effet de mousse à l'intérieur de votre cocktail, puis ça va vous donner un beau côté rafraîchissant, très pour l'été. Ça donne un super beau kick pour l'été, petit côté surette qui provient du citron. Puis le pain montagnard, justement, dans le sirop de pain avec notre gin, vient juste donner le petit côté. Là. C'est particulièrement le fun. C'est un produit de saison, le sirop de pain. Habituellement, on l'a à la distillerie. Normalement, c'est une sortie pour juillet. Donc, si vous venez, exemple, en mai, à la distillerie, malheureusement, pas probablement qu'on n'en aura pas. Mais c'est une question de cueillette puis de respect des arbres. Dans le fond, c'est que le sirop de pain est fait à partir de taille de pain Mugot qui est fait à un moment bien précis dans l'année qui permet d'avoir justement les saveurs qui sont à l'intérieur de ça. C'est la même chose pour notre gin à nous. C'est pas le même moment, mais ça donne sa particularité aussi. C'est le côté bien spécial.
Puis advenant que les auditeurs auraient malheureusement pas accès à votre sirop de pain, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser pour faire un équivalent ou quelque chose qui pourrait se rapprocher, là, qui serait peut-être plus accessible aux gens qui sont pas dans la région?
Oui, dans le fond, je vous dis, débuter tout simplement par un sirop simple. Tu sais, c'est quelque chose qui est simple. Une part d'eau, une part de sucre, monter ça doucement au chaudron en température. C'est quelque chose qui est vraiment très simple et vous allez voir, vous allez goûter la recette. Le côté montagnard va être un petit peu moins présent à l'intérieur de votre cocktail, mais vous allez quand même bien sentir votre gin. Vous allez voir le côté frais à l'intérieur de ça. Donc, facilement, vous êtes en mesure de faire ça à la maison, de préparer vous-même votre sirop ou de l'acheter déjà prêt. Ça dépend de chacun des goûts. Puis de faire cette espèce de belle recette-là de sirop de pain. Puis après ça, ben on a vu avec le temps les gens qui ont fait certaines expériences avec d'autres résineux qui ont chez eux. Rendu là, ben à chacun ses envies, puis d'un peu ça devient un peu le côté le fun, puis de découvrir des nouvelles choses en faisant ses propres sirops, puis d'essayer des trucs intéressants comme ça.
Super. Fait que le gin Mugot distillerie Métis, c'est pas juste le gin Mugot. Tantôt tu me parlais, il y a d'autres produits qui s'en viennent, c'est ça?
Ouais, dans le fond, l'été passé, on produisait du rhum. Ici sur place, on produit le Métis. Le Métis, c'est un spiritueux de canne à sucre. Pour faire l'explication longue courte, sur place, on fermente de la mélasse et du sucre de canne biologique avec nos températures, nos levures. On fait notre fermentation, on fait toute notre distillation sur place ici, puis on envoie le métis vers un vieillissement sous cuve d'inox. Donc, avec des essences de bois du Québec, donc du bois, d'érable à sucre, de pommier de bouleau jaune, puis on intègre aussi du chêne blanc américain et français, qui va vraiment, vraiment donner une espèce de côté boisé. Vous allez sentir aussi un petit côté fumé à l'intérieur de ce spiritueux-là. Donc, on l'appelle pas rhum pour la simple et unique raison que il n'est pas vieilli en fût de chêne traditionnel, ça c'est une chose. Dans le fond, c'est une norme canadienne. Et le vieillissement se fait pendant 3 mois et non 1 an. La norme canadienne pour être un rhum, c'est d'avoir la même base que l'on utilise, mais qu'on fait vieillir pendant 1 an dans un petit fût de bois. C'est tout simplement ça la différence.
Okay.
Donc, vous allez avoir vraiment un beau, pour ce qui est du métis, un beau côté boisé à l'intérieur de ça, un beau goût de bois neuf à l'intérieur de ça. Puis honnêtement, en rum and coke, c'est particulièrement le fun à boire. Puis beaucoup d'amateurs aiment le boire sur glace aussi.
Fait que ça n'a pas le droit de s'appeler un rhum, mais les amateurs de rhum s'y retrouveraient.
Ça dépend toujours des goûts. Le côté boisé, tu peux avoir, mettons, un certain lien. Certains gens vont avoir un lien avec le whisky. Le côté boisé est vraiment bien présent. Il va avoir une belle petite note d'érable à sucre à la fin. Donc, c'est pas comme un rhum traditionnel en fût qui va avoir un goût vraiment plus onctueux de caramel ou de côté bourbonné. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le métis. Mais pour les amateurs de whisky, on a vu beaucoup de gens qui ont justement ils ont bifurqué vers le métis justement parce que ça va avoir le côté bois plus franc va donner vraiment quelque chose d'intéressant.
Excellent.
Et on mentionnait tantôt, vous parliez de voir ce qu'il y a d'autres produits. Il va y avoir un nouveau produit qui va sortir là, pour le printemps, qui va s'appeler le rhum nordique. On va sortir ça très prochainement, nous, à la distillerie. Il va être disponible ici à la distillerie et en SAQ, ce qui n'était pas le cas, dans le fond, pour le métis. Le métis se vend exclusivement ici à la distillerie. Et le rhum nordique, qui vieillit un an en first fill de fût de Bourbon. On est très content du résultat actuellement, puis on espère pouvoir les gens pouvoir se gâter avec ça là, à sa sortie.
OK. C'est fort alléchant. C'est très, très, très fort alléchant. J'ai hâte de voir ça. C'est le fun puisqu'il va être accessible pour tout le monde. Sinon, ben pour le spiritueux métis, ben ça vaut, c'est d'aller faire un tour à la distillerie finalement.
Venez nous voir pendant la saison estivale ou même si vous passez en hiver hors COVID.
Ouais.
Ben, ça nous permet de, ça permet de pouvoir venir goûter à ça puis venir voir les produits.
Bon, fait que moi, parce que moi, j'ai vraiment hâte de goûter à ce gin-là, à le gin Mugo. Puis merci beaucoup, David, aussi d'avoir accepté de contribuer à Ginétique. Tu vas permettre à un auditeur, en fait, de goûter à ce gin-là. Quelqu'un qui va gagner une bouteille, un Patreon. Donc, si vous voulez gagner, à courir la chance de gagner une bouteille de Métis, vous avez juste à vous souscrire au Patreon de Ginétique. David, aussi un gros merci pour ta contribution et ta participation au podcast.
C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir partagé. Puis on se dit à l'été.
On se dit à la prochaine. Puis lorsqu'on aura l'occasion de passer, moi, c'est sûr que je vais arrêter de dire bonjour. Puis nous autres, Marie, on s'en va goûter ça sur glace.
Dégustons ça brut.
Yeah, super entrevue passionnante avec David. Merci énormément, David, de nous avoir accordé ce temps-là. Je le répète encore, et la générosité de la distillerie Métis, elle est soulignée. Et les patrons, vous pourrez aussi profiter de cette générosité-là, très simplement en étant patron. Hein. Si vous ne l'êtes pas, devenez-le et vous pouvez gagner non seulement une bouteille, mais aussi un beau verre.
Oui, ils ont eu la générosité de me donner une bouteille et un verre de la distillerie. Donc, merci beaucoup, David.
Donc, cela, ça vient en kit. Fait que vous avez le verre et la bouteille. Si vous êtes patron, vous avez une chance de le gagner. Maintenant.
Passons aux choses sérieuses.
T'as assez le niaisage.
Dégustation.
Alors, on a un gin transparent. Au nez, on est dans le Boréal.
Boréal. Mes jeans préférés.
On est dans le sapineux.
Oui. Très sapineux.
On a plus qu'on se rapproche le nez, plus qu'on a le genévrier. Mais il y a un petit côté. Il y a une petite touche fruitée qui ressort un petit peu différente, je trouve, au nez toujours.
Oui, c'est vrai. T'as raison.
Du coup, il y a un petit fruit rouge, un petit.
Ah, je le sens pas, mais peut-être juste parce que je le sens pas.
Peut-être pas fruit rouge, mais je comprends le fruité. Mais c'est peut-être par déformation ou par... Mais tu sais, moi, ce que je sens, c'est vraiment... Parce que quand ils vont rechercher le Mugo, là, c'est les petits bourgeois, tu sais, c'est le frais, la nouvelle pousse là, qu'ils vont chercher.
Le petit bout de vert pâle.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être par déformation, moi, je sens ça. Le vert pâle là, du Mugo, en fait, là-dedans, là.
Du pain campagnard.
Du pain campagnard.
Montagnard, dis-je.
Pain campagnard.
Le pain
campagnard. Du pain campagnard. Voulez-vous une bonne toast?
Une toast au pain de ménage. Ouais. OK. Bon. Suite à ce doux nez, on pourrait profiter de ce moment-là pour se faire un petit cheers et déguster le Mugo de distillerie Métis.
Oh oui.
On tombe pas mal dans ta palette. Hein,
c'est... Oui. Oh oui. Ouais. 100% dans ma palette. Boréal, conifère, énormément. Mais j'ai goûté un fruit. Je ne peux pas l'identifier.
Ah.
Je ne peux pas l'identifier. Poivre des dunes.
C'est pas un fruit?
Non, mais je l'ai goûté.
Ouais, tu l'as mangé tantôt, du poivre.
Je l'ai goûté. Par contre, j'ai goûté un fruit. Je ne sais pas lequel.
J'aurais envie de dire baie d'Aronia. Il y a un côté, moi, il y a du rouge là-dedans, c'est sûr et certain. Il y a du rouge, Camrys ou baie d'Aronia, dans cette famille-là, je pourrais pas me prononcer, mais c'est une impression de saveur. Là, c'est, je veux pas impliquer qu'il y en a dedans, mais on a vraiment une petite impression. C'est chaleureux comme gin.
Eh oui, la chaleur d'alcool, elle reste vraiment là.
Oui, la chaleur est présente. La chaleur est très, très, très présente.
Très, très chaud. Puis ça l'engourdit un peu ma
oui.
Le palais.
Oui.
Qu'est-ce que vous sentez d'autre sur la langue, en fait?
C'est vraiment enveloppant.
Oui, très enveloppant.
C'est vraiment rond, là, dans le fond de ma langue, là, c'est vraiment là que c'est enveloppant. Donc, L'alcool est présent, il y a une chaleur aussi. Il me semble que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un gin que ça faisait ça.
Ouais, aussi puissant.
Dans les derniers épisodes, là, ça arrivait comme pas.
Ouais.
Mais il est. Comme on explique souvent quand on dit ça, c'est pas un côté négatif qu'on veut parler. C'est non. Que c'est la caractéristique du gin, puis ça fit avec.
Mm-hmm.
Je sais pas si vous comprenez. C'est vraiment bon. Puis comme je vous dis, moi, étant Boréal, étant mes préférés, déjà, il me conquit, ce gin-là. Je le trouve bon. Il est, tu sais, le côté, comme je disais, conifère, excessivement présent. Le poivre des dunes vient vraiment à la fin. On goûte les autres aromates, mais il y a un genre de fruit que je pourrais, ou peut-être un petit fruit, quelque chose que je pourrais pas dire. Il y a un sucré, comme on dit, là, c'est un sucré d'alcool à combien? 46% qu'on a dit tantôt?
43%.
Qui est là. Tu sais, c'est pas du sucre en tant que tel, c'est qu'on
une
sent
saveur.
Une saveur d'un petit fruit, mais je sais pas, ça serait quoi exactement. Mais il y a de quoi de présent.
C'est rouge. J'ai vraiment un feeling rouge. À la limite, mûr, mais vraiment, il y a ça. En rétro-olfaction, on a une coriandre qui remonte. On a le côté un peu agrumé. Le côté.
Pas encore fait.
Je t'invite à l'essayer.
J'ai de la misère quand tu dis coriandre, moi.
Ben, c'est comme une espèce de...
Je trouve pas que c'est coriandre, parce que moi, quand je pense à coriandre, quand je me réfère à des blanches, mettons, des bières blanches, je sais pas, je trouve pas le coriandre, j'ai pas de point de référence pour là.
C'est que t'as deux saveurs de coriandre distinctes, t'as la feuille puis la graine.
Là, toi, tu réfères à quoi?
La graine.
OK.
Parce que je trouve que la graine de coriandre est plus épicée que la feuille.
Parce que moi, de la feuille de coriandre, là, je trouve que ça goûte du liquide de vaisselle. Ouais, ça ne marche pas dans ma bouche.
Okay. Ouais, tu fais partie des gens qui ont les gènes qui ne tolèrent pas la feuille de coriandre.
C'est ça.
Je l'ai, moi, c'est aussi.
C'est vrai, mais... je ris pas avec ça, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
C'est quelque chose de vrai.
T'aimes ou t'aimes pas. Tu peux pas aimer un peu, genre.
Mais je suis du côté que j'aime pas, mais tranquillement, pas vite, ça change.
Oui, on apprend.
À force
là.
D'essayer, on goûte différentes choses avec la coriandre. Je pense que c'est pas vrai que c'est noir ou blanc. Je vais dire ça de même. C'est genre t'aimes ou t'aimes pas. Je pense que si t'aimes pas, il faut que tu te forces. Puis à un moment donné, ça va finir par.
Mais tu veux dire, au début, quand t'en goûtes, tu peux pas dire j'aime ça un peu. Tu sais, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est comme tu dis, à un moment donné, tu t'habitues puis tu t'en vas vers ça. Tu sais, moi aussi, là, ça va faire ça. Mais la première fois que j'ai goûté à ça, j'ai fait comme wark. Pour moi, ils ont lavé ça dans du savon à vaisselle puis ils ont mis
d'accord.
Ça dans mes rouleaux de printemps.
Le truc, c'est que malheureusement, dans les restos puis des choses de même, souvent, ils en mettent des quantités.
Industrielles.
Ouais, phénoménales. Puis, je pense que vu qu'on est ceux-là qui n'aiment pas ça à cause que génétiquement parlant, on n'a pas le. Ou on n'a plus le gène. Ou on
génétiquement
a,
ouais. Parlant?
Oh! Ben, je pense qu'il faut juste s'habituer avec des petites quantités. Tu sais, genre, quelques feuilles à la limite, ça va être bien. Ben, c'est ça le problème.
J'ai de la misère à saisir tout ça parce que moi, de la feuille de coriandre, puis ça a toujours été, là, ça ne s'est pas développé. Je vais en prendre un tas, je vais en prendre trois, je vais croquer ça, puis pas de trouble, ben, tu sais.
Nous autres, à l'école, quand on est en secondaire 3, on parle des types de sur, amer, sur la langue.
Mm-hmm.
Généralement, on a des petites languettes qu'on fait goûter à nos élèves. Puis c'est des languettes que si tu as le gène, tu vas découvrir, tu vas goûter de l'amertume. Puis souvent, c'est comme 50-50. T'as la moitié des élèves qui le mettent sur la langue, font ça goûte absolument rien. Puis t'as l'autre moitié qui fait genre, c'est ta mère. Fait que c'est ça.
OK.
C'est vraiment.
C'est drôle.
Moi,
ça.
J'en fais partie de ceux qui goûtent la mer. Je pensais pas que je l'avais, je me le mets, puis je fais. Alors, ça goûte à rien, gang, comme on est. Ah! C'est ta mère.
OK. Mais ouais, OK, je comprends mieux puis ta graine de coriandre et non ton.
Ouais, feuille. Parce que le grain, il est plus. Il va vraiment aller chercher une certaine acidité.
OK.
C'est parce que souvent, la coriandre est facile à mêler avec l'agrume parce qu'ils vont souvent ensemble, en fait, surtout dans les bières. Ça va souvent ensemble, mais si tu as un excès de coriandre. Dans le breuvage, ça goûte pas la même chose que s'il y a un excès d'agrumes.
Je comprends.
Fait que s'agit vraiment de le tester, c'est difficile à l'écrire, il s'agit vraiment d'expérimenter.
OK.
Tu sais, bon, pour les gens qui aiment ça, les gens qui sont pas capables, peut-être que toute leur vie, ils vont penser que ça goûte le savon à vaisselle. Mais dans ce cas-là, ça ne goûte pas le savon à vaisselle.
T'as déjà fini, Pierre?
J'avais pris moins que vous autres, un petit peu.
Ah.
C'est un gin qui est dans le style forestier, très fin.
Oui.
Mais chaleureux.
Oui.
Ah oui, oui.
Ça goûte pas la grosse épinette, là. C'est fin. Tu l'as bien dit, c'est fin.
C'est une longue randonnée en raquette. Je reviendrai puis je me coulerai ça. Tu sais, genre, j'ai senti du conifère toute la journée, mais j'ai eu froid. Puis là, je veux comme continuer à avoir cette trip-là, mais dans une chaleur, fait que ça vient souci.
C'est super bien. Super, super bien. Est-ce que ça vous tente de s'amuser un petit peu puis de diluer ça dans le moment à Pierre?
Ouais!
Alors, allons-y en tonique!
Ah ouais, un petit gin tonic.
Et c'est le moment ginto avec le Mugo de Métis.
Moment préféré.
Hashtag Pierre.
Hashtag clan Pierre. nous avons été avec Basic du Basic. 2 onces de gin Mugo. 4 onces de tonic.
Ouais,
16,42.
On a encore là 3 différentes versions. Kevin est avec le 16,42 léger, yeah. Pierre le régulier et moi le régulier pour moitié-moitié avec de l'eau pétillante.
Voilà. Donc, nous utilisons les toniques 16,42, les premiers toniques québécois sans quinine avec un crédit naturel. Très, très content de faire affaire, en fait, de partager ces différentes saveurs et d'utiliser ce diluant à breuvage spiritueux. C'est ça? À breuvage spiritueux.
Diluant.
Un petit diluant.
C'est ça qu'il disait
ton père? C'est mon père qui dit ça. Ouais, il emmène le petit diluant.
On le salue s'il est à l'écoute.
Donc, on y va, les garçons.
That's it, that's all. On est allé, ben, straight pipe, 2 pour 1. Avec un beau gros glaçon.
Santé.
Ah, oh, fais-tu bien, là. Oh! Le Mugo ressort sur un temps.
Donc, suite à cette dégustation,
oh,
qu'est-ce qu'on en conclut?
On est semblables, nous deux.
Ben, en fait, oui. Oui, c'est vrai. Le moitié-moitié pétillant tonique et le tonique léger, c'est similaire. Sauf que je remarque que le pétillant, on goûte un peu plus le carbone. Le minéral du carbone de la carboneuse.
Le minéral.
Oui, mais c'est vrai, ça a un goût. Le carbone, ça a un goût. Puis ça, c'est de la misère. Tandis que quand on goûte celui avec le tonic 16,42 régulier, on a quand même une bonne rondeur sucrée qui ressort.
Ouais, la rondeur représente.
La rondeur représente. C'est
moi, c'est ce que j'aime, mais je comprends qu'on veut.
Sais-tu quoi?
Oui.
J'aurais fait un peu comme kilomètre 12 là-dessus. J'aurais mis 1 pour 1.
Hein?
J'aurais mis, mettons, 1 once de gin, 1 once de tonic. Là, on est à 1 pour 2. 1 once de gin, 2 onces de tonic.
Mm-hmm.
Mais je l'aurais essayé, lui, avec 1 pour 1. J'aurais été curieux de voir, parce que il me fait penser un peu à... Ben, il y a une similitude avec le kilomètre 12. Puis on y allait comme ça avec le kilomètre 12. Puis je pense qu'on aurait été chercher encore plus de saveur avec ça. Sinon, je pense qu'on a...
On a été comme ça avec...
Oui.
Tu me vois-tu les questionnements dans mes yeux?
Oui, mais je me souviens très clairement que Jean-Philippe nous avait recommandé de faire du 1 pour 1.
OK.
Mm-hmm.
Va falloir que je nous réécoute. Je sais plus. OK.
Mais pas longtemps qu'on l'a enregistré, on s'excuse.
Mais savez-vous quoi? Ce que je remarque, là, c'est qu'en plus, le 1642 régulier n'est pas renommé pour être un tonique sucré. Ça, si je compare à des toniques en grande surface, là, Schweppes et compagnie. Là. Fait qu'imaginez-vous si on aurait fait ça avec un tonique de qualité inférieure, si je pourrais dire, de marque non québécoise, comment ça aurait été sucré encore plus?
Je pense que mon problème, c'est que je me suis habitué maintenant avec un taux de sucre plus bas.
Mais c'est parfait.
Puis quand je remonte, là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc ben beaucoup trop.
C'est comme les liqueurs diet. Quand on s'habitue vraiment beaucoup, puis on retombe au régulier, on fait, wow, je vais mourir.
Ben non, juste un café. Les cafés noirs, les cafés sucrés, ouais. C'est ça aussi, ça paraît, là.
Mais, on dirait que le corps s'habitue, la langue aussi s'habitue à la différence de sucre. Que, en fait, on a une tolérance au sucre qui se réduit avec le temps parce qu'on en prend moins.
Techniquement, le sucre, c'est une sorte de drogue que le corps ne devrait pas lui faire ingérer. Mm-hmm. Là, on va se le dire. Fait que, tu sais, déjà qu'on. Tout le sucre blanc transformé. Fait que, tu sais, genre, si on s'est réhabitué au normal, je pense que le corps, c'est pas qu'il aime plus ou moins ça. C'est que, tu sais, il y a un sevrage qui est important
dans le fait. Ouais,
c'est ça.
Quelle saveur vous trouvez que votre tonique fait le plus ressortir? Moi, c'est le Mugo qui est venu le carré.
Le pain, oui, c'est sûr.
Oh oui, totalement.
C'est vraiment ça qui ressort en premier.
Je
ne
disais pas l'épinette, mais je disais le côté conifère et ressort. Oh, oui.
Ouais. L'amertume du tonique prend de la place aussi. Je trouve que le Mugo se marie bien avec le 1642, que ce soit le régulier ou le léger. Il se marie bien, puis les deux amertumes se naviguent parallèlement. Oui. Avec brio. Tu sais, on a vraiment des saveurs complémentaires. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc, c'est très, très complémentaire. Je pense que c'est... direct en partant, 1642, le régulier puis le léger, je trouve que ça fit avec les gins boréales.
Ben, c'est des saveurs nordiques à la base. Peu importe. Ça voilà. Vaut, mais oui, il est vraiment super bon. C'est classique. C'est super classique. Là, c'est sûr que je le prendrais plus froid. Là. J'ai pas assez mis de glace dans mon verre.
Non, c'est correct, mon sucre de l'eau.
Mais il est super bon. J'ai hâte vraiment de le découvrir autrement. Je l'aime.
Ouais. Je pense que c'est un passe-partout, en fait. Je pense que c'est un gin tôt qui peut vraiment plaire à tout le monde. Quelqu'un qu'il faut qu'il aime les saveurs de conifères, évidemment. Il faut aimer les gins forestiers. Puis on a vraiment quelque chose de passe-partout.
Mais oui, il faut aimer les gins forestiers, mais jusqu'à un point tel où ce que... Comme moi, mes soeurs, ils adorent ce qui est amer à côté. Là. Fait que ça, ils le trouvaient trop doux.
OK.
Tu sais, ma soeur, elle adore le radoun. Ça, c'est comme son préféré de toutes. Puis quand elle a goûté le Mugo, elle trouvait qu'il n'était pas assez amer. Elle, dans sa palette de saveurs, c'était pas assez amer. Fait que oui, il faut que tu aimes les forestiers, mais jusqu'à un certain... Tu sais, ça dépend de quel range de forêt que tu veux dans ta palette. Là, parce que... Tu sais, il y a boréal, forestier, tu comprends-tu? Ça rentre un peu dans toute la même palette, moi, je trouve.
Parce que je trouve qu'au brut, sans tonique, il était puissant au niveau boréal.
Oui.
Plus
oui,
que beaucoup aussi. Que j'ai goûté. Puis en tonique, on dirait qu'on vient un peu inverser le processus.
Mais forestier boréal, c'est deux palettes différentes aussi. Là.
Ah ben, quand je parle de forestier, dans ma tête, c'est boréal. Je n'avais pas vraiment
calculé. Oui, mais il y a vraiment deux palettes différentes. Ah. À la sac, tu as boréal et tu as forestier.
Ouais, je pense que boréal, on s'en va plus dans le côté doux, conifères.
Épinettes, poils des dunes, ces trucs-là.
Forestier, on va s'en aller plus vers le côté senteur terreuse.
Je sais pas, mais boréal, moi...
La forêt, tu sais.
Boréal, moi, je vois ça plus comme les aromates. Plus comme, tu sais, kilomètre 12, là, c'est un boréal, c'est pas un forestier. C'est vraiment les aromates, là, voyons, poivre des dunes, puis tout ça. Puis forestier, c'est vraiment plus épinette et compagnie. En tout cas, va vraiment falloir qu'on éclaircisse le sujet. Mais c'est deux palettes de saveurs.
OK, ouais. Je vais dans mon monde à moi, je trouve ça très similaire. Fait que j'ai tendance à les associer ensemble.
Parce c'est que quand on avait parlé avec Jonathan, il disait que lui, le Tuya, il était associé à boréal. Il dit, la sac nous a fait dire que la pastille, c'est boréal, mais je crois qu'eux, ils le voyaient plus, un peu plus forestier.
Okay.
Fait que, ouais, c'est vraiment deux palettes différentes.
OK. Non, c'est intéressant, puis c'est un bon petit ginto passe-partout. Je l'aurais, j'aurais pas détesté l'agrémenter avec un peu de concombre, en fait, ça aurait pu être intéressant. Ou un citron. Un citron, ça pourrait être bien aussi.
Oui.
Très, très bien. Fait que si jamais vous voulez mettre un petit peu plus de piquant, ça serait intéressant qu'on puisse y aller. Mais nous, on décide d'y aller basic du basic suite à la recommandation à David.
Oui, effectivement. Donc, j'ai hâte de vous le faire découvrir comme moi, je l'ai découvert la première fois avec comme un gin sour. Ça va vraiment être excellent avec le sirop de Mugo que David nous a suggéré de prendre pour mettre dans le cocktail. Donc, j'ai hâte de vous faire ça, les gars.
Oui, c'est ce bout-là qui m'intrigue le plus dans cet épisode-là. J'ai bien hâte. T'es-tu prêt, Pierre?
Est-ce que je peux dire une parenthèse? À chaque fois que tu dis un gin passe-partout, moi, je dis, passe-carreau, passe-montagne aussi. Pas toutes les fois.
Celui-là, c'est un gin passe-montagnard et des papillons.
Moi, j'aimais à la casou.
Oui.
La casine? Oui.
Le meilleur.
Vous avez compris ma joke avec le Mugo, Montagnard?
Toujours.
OK, merci. Allons au moment cocktail!
Moment cocktail.
Moment cocktail avec le Mugo de la distillerie Métis.
Oui, j'avais vraiment hâte de vous faire goûter ça, les gars. J'ai pas goûté. Tu sais, moi, d'habitude, je fais un test avant de vous le donner pour être sûr que c'est bon. Mais je l'ai pas fait. On va tout redécouvrir ça ensemble. Donc, je vous donne la recette du cocktail Mugo.
Qui nous a été suggéré par David.
Oui, fait que là, on est vraiment d'un côté plus été festif, frais. Donc, c'est 2 onces de gin Mugo, 3/4 d'once à 1 once de sirop de pain montagnard Mugo ou sirop simple. Si vous n'avez pas la chance d'avoir le sirop de pain de Mugo à la maison, faites-vous un sirop simple, super facile. Une partie de sucre pour une partie d'eau. Vous faites bouillir à peu près 5 minutes. Et puis, après ça, vous ajoutez 1 once de jus de citron et 1 blanc d'œuf. Vous faites shaker ça avec de la glace pour faire une petite émulsification. Et vous reversez ça dans un verre avec de la glace neuve puis vous dégustez le tout. Comme on va le faire présentement.
On est rendu à cette étape-là.
Oui.
Oui.
Dégustation. Alors, cheers, les gin amis.
santé.
Voilà.
On a un beau cocktail. Le...
Il est vert, pâle.
Opaque, jaune, vert. Ouais, ouais, super
on
beau. Vraiment...
Mais on dirait qu'on boit un blanc d'œuf.
Oui. Oui. T'as goûté, toi?
Non, moi, je me suis lancé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, on jase.
Oh, c'est que ça fait du bien. Oh, excusez, j'ai sacré. Oh, mais ça fait du bien. Là, j'avais besoin de ça pour calmer tout le avant.
Là, on jase.
Mm. Bon, là.
Un gin sour, c'est ça, Pierre.
Mais bon, citron.
Oui.
Citron. Très citron. J'aime. J'aime vraiment beaucoup. C'est soyeux comme liquide, donc.
Moi, j'aime beaucoup l'émulsifiant, le blanc d'œuf, parce que ça rajoute une crème, une texture de crème qui est fort intéressante. Puis ça rajoute une consistance qui est agréable à boire puis qui fait cocktail. Ça fait jus, en fait, c'est plus le mot que je cherche. On a l'impression de boire un jus en texture et non comme un tonic qui est très plus soda, là. Ouais.
Ouais. Puis je comprends parce qu'en fait, si, mettons, j'enlèverais l'émulsifiant, si j'enlèverais le blanc d'œuf là-dedans, t'aurais pas la même texture de jus parce que ça serait moins... OK, ça serait moins plein. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Oui, oui, c'est ça. Ça serait plus hétérogène.
Non, moi, j'aime. Non, ça serait plus liquide, point à la ligne. Non, il n'y aurait pas de rondeur.
Plus à queue.
Oui,
quand c'est à queue, c'est liquide. Oui, c'est ça. Okay.
Puis, oui, bien là, mon but... Là, écoutez-moi bien les gars. Là.
On t'écoute bien.
On écoute.
Moi, j'ai jamais vu l'émulsifiant norrois dans mon coin. Non donc, plus. Si vous le voyez dans votre coin, s'il vous plaît, ramassez-le.
J'en ai besoin aussi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été capable. J'en ai pas trouvé.
Je pense que ça se vend sur Internet. Il faudrait le faire venir de la distillerie norrois.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. C'est parce que je veux l'essayer, parce que je veux comparer avec le blanc d'œuf ou ça. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour l'émulsification?
Ben, direct en partant, c'est une option végane, l'émulsifiant, parce qu'il est pas, c'est pas un blanc d'œuf.
Non.
Que pour les véganes, ça peut être plus intéressant d'y aller avec l'émulsifiant norrois.
Ça prend genre, je pense, une ou deux pipettes comparativement.
Ah, on dit jusqu'à trois pour être sûr.
C'est vrai?
Ouais, ouais, ouais. Stéphane disait au moins jusqu'à trois.
OK. Mais en tout cas, je serais vraiment curieuse pour si la rondeur s'approcherait d'un blanc d'œuf.
Ouais.
Fait que, en tout cas, si vous voyez ça, là.
Ça rajoute aussi un gras. Ça rajoute un gras. Une espèce de punch. Une espèce de texture laiteuse qui fait qu'il y a une consistance qui fait qu'il se boit plus lentement, mais c'est une bonne chose. T'sais, on prend plus le temps de le déguster.
Est-ce que vous aimeriez goûter au sirop de Mugo tout seul? Voir si vous le découvrez là-dedans ou ben non, si. Parce qu'il amène vraiment un côté
vrai,
sucré.
C'est
là.
Vrai, ça peut être intéressant. Ouais,
parce que, tu sais, jus de citron, c'est tout à quoi s'en tenir, là. Mais le sirop de Mugo, vous n'y avez pas goûté tout seul.
Non,
fait,
non, il n'y a pas goûté.
Voulez-vous goûter?
On peut faire ça, oui.
Allons-y.
Non, je vais aller chercher ça.
Donc, on a en main le sirop de Mugo, le sirop de pain montagnard, qui est distribué par la distillerie Métis.
Oui. On a quand même mis beaucoup?
Il disait de 0,75 à 1. Non, Pierre! Non. J'en ai... La recette, c'était 0,75 onces à 1 once de sirop.
OK. Je pensais qu'elle était flambant neuve quand tu l'as. OK.
Non.
Qu'est-ce que
c'est? Sur ça, j'étais genre, wow, c'est le trois quarts de la bouteille, ça qu'on a mis dans notre. Mais pour de vrai, c'est super bon. Honnêtement, non.
Mais je voulais juste vous dire que, en fait, sur la bouteille de sirop, c'est inscrit que tu peux t'en servir pour parfumer des eaux pétillantes, bien straight, là, en fait. Tu peux mettre dans des cocktails comme nous on a fait ou aromatiser de la crème glacée.
Ah!
Oh, de la crème glacée, ça doit être intéressant.
Ça doit vraiment être excellent. Pour vrai, là.
Honnêtement, le mélange qu'on a là déjà là présentement, comme je vous dis, il y a comme une espèce de... C'est comme soyeux.
Je pensais qu'on allait tremper notre doigt.
Moi, j'ai pris un shooter. Hey, c'est bon.
Fais pas ça.
OK. Sur la crème glacée...
Ah ouais, ça doit être débile.
Ça doit être décadent.
Mmh. Oh, les chiouques, c'est bon.
Ah, ça doit vraiment être bon.
Mais le retrouvez-vous là, dans votre argoute en cocktail, puis le retrouves-tu? Là, tu vois... en fait, les ingrédients du sirop de Mugo, c'est de l'eau, du pain de Mugo, puis du sucre. Fait qu'on a vraiment, genre, Les ingrédients de sirop simple, eau et sucre, puis c'est avec du pain mugo.
On juste rajouter le point.
Fait que tu goûtes qu'est-ce que le pain mugo goûte.
On le goûte à l'intérieur de notre cocktail ici. Mm-hmm. Pis, c'est un très bon cocktail.
Ouais, puis il se marie bien avec le citron.
Hey, c'est bon, là. Ça, j'en boirais tout l'été, tout le temps, des pintes. Des pintes. C'est très, vraiment très bon.
Le petit acide, là, le petit sûr est bien... ouais. C'est bon.
Un bon sour, maintenant que je connais c'est quoi un sour, on va l'utiliser...
Team Pierre, c'est vraiment là, les cocktails. Là.
Non.
Tonique. Team Pierre, tonique. Là. En tout cas, c'est quoi tu m'as dit ça, toi?
Je dis clan Pierre.
Clan Pierre. Mais moi, c'est les gin sour. Ouais. Moi, là, ouf.
Non, non. Moi, le tonique, bon. Ça va être mon imbattable. Là. Genre, peu importe comment on va le goûter, je sais que le tonique, c'est mon moment préféré. Tellement haute.
Puis en plus, on a la chance de le déguster de différentes façons maintenant. Fait qu'on est vraiment privilégié.
Mm-hmm. Effectivement. Hey, merci beaucoup, vous deux, pour ce moment.
Fort intéressant comme cocktail.
Très, très bon.
Fort intéressant.
J'aime beaucoup. On goûte bien tous les ingrédients qui sont mis de l'avant. Le mugo est rehaussé par son sirop. On a une fraîcheur du citron. On a la texture soyeuse de l'œuf. Écoute, c'est très, très, très bon. J'aimerais pouvoir avoir accès à ce sirop-là plus facilement. Mais il y a de quoi faire avec ça énormément.
Oui, puis je voulais dire merci à David de sa disponibilité et de sa générosité pour nous avoir donné une bouteille pour le podcast, une bouteille pour nos Patreons, une bouteille de sirop de mugo qui n'est pas disponible à l'année, qui restait. Donc, c'est vraiment d'une générosité, une grande, grande générosité, puis un verre aussi pour nos Patreons. Donc, merci beaucoup, David, de nous avoir permis de pouvoir faire ce cocktail-là avec tes ingrédients qui proviennent de ta distillerie en collaboration avec les Jardins de Métis. Qui je vous le conseille, allez visiter ça de l'été jusqu'à l'automne parce que c'est magnifique comme endroit à aller visiter.
Oh oui, vraiment.
C'est magnifique.
Parfait. Alors, merci beaucoup, Pierre.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup, à
vous tous.
Merci, Marie.
Merci, Kevin. Merci, Pierre, d'avoir été là aussi.
On essaie fort.
Merci aussi à vous, tous les auditeurs, tous les dynamiques qui nous écoutent puis qui, j'espérons-le, dépensent follement dans les jeunes québécois depuis le début du podcast. Le but, c'est de vous parler de ces produits-là pour que vous puissiez encourager local.
Et puis honnêtement, les jeunes québécois, on n'a rien à envier aux autres.
Non, vraiment pas, c'est vrai.
Genre, tu sais, si vous voulez, tu sais, je sais que c'est dur pour certains qui boivent du gros gin depuis toujours, mais allez explorer. Tu sais, je veux dire, à la base, si vous aimez le gros gin, c'est parce que vous aimez l'alcool. Fait qu'allez aimer les autres alcools au Québec.
On fait du bon stock.
Ouais, vraiment, vraiment.
On commence à faire du très bon rhum. Il y a des bonnes vodkas. Il y a des belles liqueurs aussi. Les distilleries se donnent tout le mal du monde pour être capable d'offrir une sélection de produits intéressants. Puis c'est vraiment wow.
Puis, tu sais, comme tu disais, dépenser pour le local... Je reviens à nos Patreons, à notre première patronne, en fait, qui est Jessie, qui m'envoie encore ses messages privés comme « Hey, Marie, as-tu goûté à tel gin? Je vais aller me chercher telle affaire. » Fait que, tu sais, on a vraiment des beaux échanges par rapport au gin que même moi, j'ai pas essayé puis qu'elle va découvrir avant moi. Fait que je voudrais dire merci, un gros, gros, gros merci à Jessie d'avoir été notre première patronne puis de nos échanges par Messenger par rapport au gin. C'est super enrichissant puis ça l'encourage. Le local, ça l'encourage Québécois, puis moi, ça me fait vraiment plaisir.
Oui, très, très plaisir. La glace qui ne se peut plus dans les verres.
Ouais.
Ah, mais comme on dit, hein, c'est tellement satisfaisant d'entendre une glace craquer quand tu mets quelque chose. Moi, ça me satisfait, ouais, là. Oh.
Qui savons, s'il y a plus de choses qui sortent un jour au Québec, on va peut-être avoir le rhum éthique un jour. Qui va sortir podcast.
Le rhum éthique, c'est beau. C'est comme Roméo.
Ouais. Ouais, ça fait érotique un peu aussi.
Qui nous avons pas. Il y a combien de rhums au Québec? Il n'y a pas d'avoir des trucs.
Je pourrais pas me prononcer, mais il y en a pas beaucoup, mais de plus en plus.
Okay. Les rhums québécois?
Ouais.
Ça sera recherché.
Ça sera vérifié. Mm-hmm. Alors, merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter très, très facilement si vous ne le faites pas déjà un petit peu partout sur tous les balados diffuseurs Android. On est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio H2O, podcast.com. Venez nous suivre sur Facebook. On partage des recettes. On fait des lives avec Marie sur des recettes qu'on fait aussi avec notre collaborateur Stéphane. Et on vous apprécie énormément. Merci de nous écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rejoint la semaine prochaine. Dans un prochain épisode.
la famille H2O Web Media.